continuer ce temps d'enseignement et d'exhortation, je vais vous inviter à suivre la lecture d'un texte biblique qu'on va étudier ensuite brièvement ensemble. Ce texte se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Une histoire assez connue, je pense, qui concerne le prophète Élie. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. » « Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. » Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Alors ce passage concerne la vie du prophète Élie. C'est pas n'importe qui. Avec Moïse, c'est le plus grand prophète de tout l'Ancien Testament. On aurait du mal à les départager, s'il fallait faire un classement, mais tous les deux sont les plus grands prophètes que l'on trouve dans tout l'Ancien Testament. On est dans une époque où le peuple d'Israël part un petit peu en vrille. Le roi Achab et surtout sa femme Jézabel poussent le peuple à se détourner de Dieu. Et ils persécutent ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur. Mais Élie, lui, ne renonce pas. Même tout seul, il continue d'annoncer la parole et la volonté de Dieu. Bien évidemment, avec des souverains pareils, il finit par s'attirer des ennuis. Jézabel veut le mettre à mort et Élie doit s'enfuir. Il se cache dans le désert et là, il déprime. Il fait un énorme burn-out. Il n'en peut plus. Il œuvre tout seul pour le Seigneur. Il a l'impression en plus que ça donne rien, que ça sert à rien. Il veut en finir. Il n'en peut plus. Alors le Seigneur commence par prendre soin d'Élie. Il lui donne à manger, il lui donne à boire, il le conduit dans un lieu isolé, paisible, une grotte dans la montagne, et il le laisse dormir, il le laisse manger, il le laisse se reposer. Élie n'en peut plus, il est brisé, et il a avant toute autre chose besoin de repos. Besoin qu'on prenne soin de lui. Alors, Dieu le fait. Une fois qu'Élie a repris quelques forces, Dieu l'interroge, il lui donne l'opportunité de vider son sac. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie balance tout en bloc. Il s'est donné sans compter pour l'œuvre de Dieu, pour guider le peuple dans la volonté du Seigneur, mais ça a servi à rien. Voilà ce qu'il dit. Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Élie vide son sac, et comme il s'est reposé, il a mangé, il a bu, il a repris quelques forces, il le fait très certainement avec colère, avec fureur. Il n'a pas l'air apte à la discussion. Il est un peu trop énervé. Quand Élie a eu besoin de repos, Dieu lui a donné. Quand Élie a eu besoin de nourriture, Dieu lui a fourni. Maintenant, avant de discuter, Élie a besoin de se calmer. Il a besoin de douceur. Alors Dieu va la lui apporter. Il va se présenter à Élie, non pas avec force, dans un tremblement de terre ou une tempête de feu, mais dans un bruissement doux et léger. Élie, touché par la douceur qu'il reçoit, s'apaise enfin, et Dieu le questionne une deuxième fois. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie s'épanche à nouveau, en disant mot pour mot la même chose que précédemment, mais peut-être plus calmement. Il s'est donné sans compter pour le Seigneur, mais au final, il se retrouve à travailler seul. Et tout ce qu'il a fait, il a l'impression que ça a servi à rien. Mais souvenez-vous, quand Élie a eu besoin de repos, Dieu lui en a donné. Quand il a eu besoin de nourriture, Dieu lui en a fourni. Quand il a eu besoin de douceur, Dieu l'a apaisé. Et maintenant, dans sa vie, de quoi Élie a-t-il besoin? Principalement de deux choses. Premièrement, il a l'impression que tout ce qu'il fait ne sert à rien. Il n'a plus envie d'œuvrer pour le Seigneur, il n'a plus le cœur à ça. Il est perdu, sans but. Alors il a besoin qu'on lui donne un nouveau but, une nouvelle mission. Deuxièmement, jusque-là, il a œuvré seul pour le Seigneur. Et il a besoin d'aide. Il a besoin que d'autres soient là, avec lui, à ses côtés, pour l'aider, pour travailler ensemble. Et Dieu, dans la réponse qu'il fait à Élie, lui donne tout ça. Tout d'abord, un nouveau but. Et je vous relis ce que Dieu lui dit. « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. » Le grand problème du peuple d'Israël, c'est son roi. Alors Dieu dit à Élie qu'il va changer les rois d'Israël par d'autres qui lui seront fidèles. Élie ne savait plus quoi faire. Alors Dieu lui montre quel est le centre du problème, là où il faut qu'il axe ses efforts, il le dirige, il le guide, il le renouvelle dans sa mission. Mais Dieu lui donne aussi de l'aide pour qu'il ne soit plus seul dans son œuvre. Il lui dit « Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. » Élisée remplacera Élie dans le futur, mais avant ça, il sera son assistant, il va l'aider, il va l'accompagner. Élie ne sera plus seul. Peut-être que certains d'entre nous sont un peu comme Élie. Certains se donnent, sans compter pour l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes aussi dans notre communauté qui mettent de leur temps et de leur bien de côté pour servir le Seigneur localement, là où nous nous trouvons. Et comme Élie, on peut en venir à se fatiguer, à être usé. On n'est pas très nombreux à agir, on a l'impression que ça ne donne pas beaucoup de résultats. On se fatigue, on se décourage, on n'en peut plus. On a besoin de ce dont Élie avait besoin, du repos, un nouveau but et de l'aide. Le repos, cet été, la plupart d'entre nous a pu le prendre, en tout cas j'espère, en restant ici ou en partant loin en vacances. J'espère que le Seigneur a renouvelé vos forces. J'espère qu'il vous a apaisé, rassuré, restauré, reposé, et que vous nous revenez au taquet pour entamer cette nouvelle année ensemble. Le but commun dont nous avons besoin après le repos, en communauté et guidé par l'Esprit de Dieu, ça va être à nous de le discerner, de le fixer. Qu'est-ce que Dieu désire pour notre Église locale ? Cette question, on va se la poser tous ensemble, notamment lors de notre journée de rentrée d'église, qui sera le dimanche 27 septembre, donc dans un mois. Je le rappellerai dans les annonces. On a déjà commencé à se poser cette question-là en juin dernier, dans une discussion communautaire, on avait évoqué ce qui nous semblait primordial ou secondaire dans notre action d'église. Et bien le dimanche 27 septembre, on va approfondir encore la question et un membre de la commission évangélisation de notre union d'église viendra pour nous y aider pour l'occasion. Mais pour Élie, le repos et un nouveau but, ça ne suffisait pas. Il lui fallait de l'aide. Et bien, nous aussi. Parce que souvenez-vous de ces quelques paroles du Christ qu'on trouve en Matthieu chapitre 9. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Eh bien, je prie le Seigneur de faire se lever, notamment dans cette communauté, des hommes, des femmes, âgés ou jeunes, ados ou enfants, qui aient à cœur d'œuvrer tous ensemble pour le Seigneur. Je le répète, certains parmi nous sont peut-être comme Élie, déjà à l'œuvre, mais s'épuisant, ayant besoin d'aide. Certains sont peut-être comme Élisée, qui labourait paisiblement son champ, qui vivait sa vie, jusqu'à ce que Dieu l'appelle pour se mettre à son service. La vie chrétienne, c'est pas que vivre paisiblement sa foi et sa relation à Dieu dans une insouciance un peu béate. Et l'Église, c'est pas que un rassemblement de croyants qui se retrouvent pour le plaisir, parce que ça nous fait du bien. Tout ça, c'est vrai, mais c'est pas que ça. La vie chrétienne, c'est aussi un engagement avec le Seigneur. Une décision qui doit porter à conséquence, qui touche à notre vie entière. Pas seulement notre vie d'Église, mais aussi quand on va au travail, ou quand on est en famille. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle nous décidons de suivre le Christ et d'œuvrer à sa volonté. Et la vie d'Église, c'est également un engagement. Ensemble, nous cherchons à discerner ce que Dieu désire pour nous. Ensemble, nous mettons en place des projets pour œuvrer dans ce sens. Et ensemble, chacun, avec nos possibilités, avec nos moyens, sans négliger les autres aspects de notre vie chrétienne, que sont par exemple le travail, la vie de famille, pour ne citer que cela, ensemble, chacun avec nos possibilités et avec les dons que Dieu nous donne, nous voulons travailler à faire la volonté de notre Père en tant que ses enfants, en tant que membres de sa famille. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et jusque dans notre communauté, il y a des besoins. Cette moisson est abondante. Certains besoins sont immédiats. Alors j'en balance quelques-uns en vrac. Par exemple, l'enseignement des enfants, la sono, la gestion du site internet, la musique, le ménage, les visites, les activités des enfants, des ados ou des jeunes, les études bibliques, les groupes de maison, les présidences de culte, les prédications, le soutien financier ou dans la prière. Il y a des besoins immédiats. D'autres besoins seront peut-être à venir, lorsqu'ensemble nous aurons discerné les buts que nous voulons nous fixer pour les années à venir. Attendez pas forcément qu'on vienne vous chercher. Élisée a attendu, Élie a dû venir le trouver, et ensuite il est parti. Attendez pas forcément qu'on vienne vous chercher. Vous pouvez aussi venir vous proposer. Vous pouvez aller voir un des responsables de cette communauté et proposer votre aide avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. Cette église est pleine de personnes remplies de foi et de bonne volonté. Alors ne laissons pas quelques-uns s'épuiser pour tous, mais en tant que disciples du Christ, je vous encourage à rejoindre ceux qui œuvrent déjà. Venez avec le temps que vous avez, avec les dons qui sont les vôtres. Le corps a une place pour le service de chacun de ses membres. Eh bien, nous sommes tous des membres du peuple de Dieu. Nous y avons tous une place. Nous y avons tous un rôle. Alors, tout comme le Christ nous y encourage, eh bien, je prie le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée.